Bonjour chers amis auditeurs, je retrouve aujourd'hui sur le plateau de l'émission Écho d'Église, Suzanne Lamartinière. Bonjour Suzanne.
Bonjour Martine.
Marika Wadek. Bonjour Marika. Donc nous allons continuer sur ce jumelage assez extraordinaire entre la paroisse de Cahors et la paroisse de Coubalan et inversement. Donc je rappelle trois mots clés, unité, fraternité, vitalité, trois prêtres de la paroisse de Coubalan, de Cahors qui sont issus de la paroisse de Coubalan et donc du diocèse de Ziguinchor, convention signée, équipe mise en place et l'action menée. Nous en étions la dernière fois sur ce film qui a été réalisé auprès des différents mouvements et services de la paroisse de Cahors pour ce voyage en juillet 2019. Alors Marika, ce voyage de juillet 2019 qui a été assez extraordinaire, si j'ai bien compris.
Tout à fait.
La dernière fois.
C'était court, trop court.
Ah.
mais très dense.
Et, oui.
Et donc voilà, effectivement, beaucoup de d'émerveillement parce que les personnes qui nous ont reçus, que ce soit là où nous étions logés à Ziguinchor ou dans les paroisses que l'on rencontrait chaque jour, dans les clochers pardon, que l'on rencontrait chaque jour sur la paroisse de Coubalan, on a vécu véritablement des moments très intenses. En fait, on vivait deux rencontres par jour. On voyait un clocher le matin et l'après-midi, on partait déjeuner pour rencontrer le deuxième. C'était le deuxième deuxième village qui nous accueillait pour le déjeuner et qui avec qui on se réunissait ensuite. Et les rencontres étaient toujours en profondeur. La barrière de la langue, je dirais qu'elle n'existait pas tout à fait parce que tous les paroissiens, en tout cas enfin en Casamance, comprennent
le français.
Nous avions quand même le président justement du comité de jumelage de Coubalan qui par acquis de conscience traduisait. Mais voilà, on savait qu'on était parfaitement compris et les personnes qui s'exprimaient aussi maniaient très très joliment la langue, très précisément et très joliment en plus, un très beau français. Et donc nous avons vécu vraiment des rencontres intenses. Je repensais on a lu récemment les évangiles qui parlent de Marie qui méditait les paroles en son cœur. Et là, je me souviens, moi, ça m'a évoqué les regards de certaines personnes que nous avons rencontrées, côtoyées. Parfois, on n'avait pas le temps, effectivement, de discuter avec chacun. Mais ne serait-ce que dans la profondeur de ce regard, et avec Suzanne, je me souviens qu'on avait échangé là-dessus, on avait eu le même ressenti. C'était une représentation de cette méditation intérieure. Donc ça permettait de vraiment de se mettre en connexion, je dirais. Voilà. Et en plus de cette profondeur, il y avait aussi de la joie, bien sûr.
Oui, j'imagine, oui, je suppose.
Voilà.
Une rencontre exceptionnelle.
Voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'on commençait souvent les temps de rencontre. Alors, pour faire un petit peu rêver l'auditeur, surtout en cette saison, je vais parler des lieux de rencontre. En fait, quand on arrivait après un temps de en voiture parfois assez long
hein, je suppose,
et voilà, nous étions conduits par le curé de la paroisse et par le père Blaise aussi menait une autre voiture, un autre véhicule, et donc on arrivait sur les lieux et on voyait très souvent un manguier. Pour nous, ça évoquerait plutôt, il faut que les personnes qui n'ont pas eu la chance de voir un manguier dans toute sa splendeur, s'imaginent un tilleul, peut-être, voilà, un arbre aussi majestueux. Et et dessous le sable était non pas immaculé, parce qu'heureusement pour nos yeux il n'était pas tout à fait blanc, mais il était en tout cas sans aucune vous voyez, c'était parfaitement balayé, enfin c'était une plage c'était le sable dont on rêve sur une plage, et là étaient installées des chaises que les paroissiens avaient rassemblées pour nous accueillir vraiment dans les meilleures conditions possibles. Mmh. Et donc sous l'ombre généreuse de ce manguier, on commençait par un temps de prière. Je peux vous dire que là, cet esprit de recueillement persistait longtemps après la prière, même pendant les échanges. Mm-hmm. Donc chacun se présentait, on rappelait nous-mêmes un petit peu le but de notre venue, qui était donc de faire connaissance. Voilà, et donc on pouvait recevoir eux aussi le témoignage de leur volonté, voilà. Et donc c'était des moments
fabuleux,
ouais.
Fabuleux et très spirituel. Alors vous avez employé, Marika, le terme de CEB, communauté ecclésiale de base. Vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus là-dessus?
Oui. Alors La communauté ecclésiale de base, ça a été une découverte, en tout cas pour moi. Donc évidemment, les origines bibliques sont faciles à trouver. Hein. C'était, mm-hmm. C'était les premiers groupes d'une douzaine d'hommes et femmes qui suivaient Jésus, dont Luc parle très abondamment. Donc c'était, ça correspondait aussi aux nécessités d'églises domestiques qui parfois peuvent encore se trouver d'ailleurs au Sénégal. Mm-hmm. Mais ce qui n'est pas spécifiquement le cas à Koubalan, puisqu'il y a quand même trois églises bâties, donc qui arrivent à rassembler, à couvrir un peu le territoire. Donc les CEB reprennent l'image de l'église famille de Dieu, et donc tout parliez d'unité, Martine. Oui. Donc c'est effectivement l'unité dans la diversité. Hein, on est tous dans cette famille, chacun ayant son rôle, ne pouvant pas avoir la même responsabilité, mais en ayant une chacun. Donc ça, c'est ce qui permet un équilibre qui va permettre le développement en fait de cette famille. Et donc autre notion fondatrice, c'est le corps du Christ. Hein, nous sommes tous co-responsables de cette vitalité. De la vitalité du corps entier. Mmh. Et parce que c'est une responsabilité qui nous est commune dès lors que nous avons été baptisés, voilà, ça c'était mmh.
Un petit peu les termes que nous employions au début de la première émission.
Voilà. Donc après, pour revenir sur Terre, l'historique mondial en 68, oui. Apparaissent ces premières CEB au Brésil. Ensuite, dans les années 70-80, le continent africain s'approprie ce type d'organisation. Saint Jean-Paul II, encourage la multiplication des CEB en 1990. Voilà, pour vous donner un petit peu le contexte théorique. Maintenant, la définition d'une CEB, c'est vraiment l'idée de faire communauté au nom de leur foi dans leur village, hein. dans le village le quartier ou le village qu'on habite, hein, puisque c'est une notion qui est commune à que ce soit rural ou pas, ça peut tout à fait vivre. Donc voilà, c'est une communauté qui cherche le maximum de vie et dans les missions qui vont leur être données, en communion évidemment avec l'Église et avec les pasteurs. Et donc c'est un désir de vivre l'Évangile à la base. Alors j'ai eu du mal au début, c'était le terme de base, je me disais, quel sens ça a? Et en fait là, il s'agit de s'incarner dans les réalités vécues, en fait. Voilà, c'est de vraiment partager les réalités et d'être ensemble pour les comprendre, les analyser, y faire face aussi.
D'accord.
Voilà, c'est vraiment le but. Et puis en fait tout le monde peut être membre d'une CEB adulte, toute personne adulte. Voilà, les en fait, c'est l'idée, c'est de vraiment de se faire, de se rassembler sur un territoire restreint pour pouvoir bien se connaître et pouvoir communiquer de manière optimale du fait de cette proximité. Voilà. Donc.
Alors donc, si je comprends bien, donc ce voyage en Casamance, ce voyage à Coubalan a été quelque chose de vécu de façon extraordinaire, très spirituelle. Suzanne, quelle en a été la suite de ce voyage? C'est-à-dire que vous avez fait connaissance un peu plus, bien sûr, avec la communauté, vous avez montré ce film. Je pense que le jumelage de Coubalan n'est pas resté en reste, et il n'a pas eu de reste, tout au moins, puisqu'il a aussi fait quelque chose. Il a aussi peut-être pris des photos. Comment s'est fait la suite de ce film? Comment s'est fait la suite du voyage par rapport à la paroisse de Cahors?
Alors, effectivement, il y a eu ce voyage de rêve.
On va le dire. Oui, osons le dire.
Dans Marika, nous présenter, effectivement, en présentant aussi les CEB, disant que, voilà, juste pour revenir sur la CEB, c'est un petit peu l'équivalent d'une paroisse chez nous.
Dire,
d'un clocher. Voilà. C'est pour que les auditeurs puissent cerner la chose. On va au Sénégal. Donc à Ziguinchor, à Coubalan, on fait le tour, on rencontre donc les différents pays, donc avec le film on leur présente. À la fin du voyage, on reçoit un magnifique cadeau, donc qui est un objet d'art réalisé donc par un des paroissiens, donc la statue de Saint-Joseph. Alors il faut préciser pourquoi Saint-Joseph.
Oui.
C'est-à-dire que l'église de Coubalan, donc elle est dédiée donc à Saint-Joseph, c'est la paroisse de Saint-Joseph ouvrier.
Voilà.
Donc effectivement, il nous offre en signe donc d'adhésion donc à ce jumelage, il faut préciser c'est la première rencontre hein, donc il nous offre la paroisse de Coubalan nous offre en signe d'adhésion et de joie de cette première rencontre, le symbole donc de leur paroisse, la statue de Saint-Joseph que nous avons ramené pour les
une
paroissiens.
Une statue de Saint-Joseph
elle est sculptée par un paroissien de Coubalan.
Très bien.
Voilà.
Donc vous avez ramené dans vos bagages, bien sûr.
On ramène.
Je pense très facile.
Elle n'est pas surdimensionnée, parce qu'ils ont quand même eu la présence d'esprit, je veux dire,
fraternelle.
De voyage. Hein, voilà, on voit cette attention.
C'est un magnifique détail, cadeau, en tout cas,
de détail, plus, donc,
magnifique
de nos jumeaux, donc de Coubalan. Donc ils ont effectivement pensé au fait qu'il fallait ramener cette statue, donc elle est à taille tout à fait.
Voilà.
Elle peut rentrer
dans une valise.
Donc nous l'avons ramenée à Cahors, donc autour de ce voyage, donc en 2019. Et donc il était question d'installer donc.
Alors on en reparlera tout à l'heure de l'installation parce que ça a demandé aussi pas mal de
démarches.
Donc peut-être revenons peut-être à quand vous êtes rentré en France. Voilà après ce voyage de rêve comme vous disiez Suzanne. Quel a été le rendu aux paroissiens de Cahors.
Martine, quand on vient de vivre un voyage comme celui-là. On n'a qu'une envie, c'est de partager sa joie, de partager ce qu'on a découvert, de le faire vivre aux autres. Pas toujours évident, parce qu'effectivement, je veux dire, c'est quand on n'a pas vécu, quand on n'a pas vu.
Oui, quand vous étiez six, donc il n'y avait pas une paroisse entière qui l'a
fait. D'ailleurs, c'est une manière de c'est un petit clin d'œil, je veux dire, que je fais aux paroissiens, je veux dire, à ceux qui nous entendent, allez à Coubalan.
Nous en parlerons aussi à la
Nous revenons, Martine, donc au mois de juillet, et donc nous nous disons, il faut le transmettre, il faut partager quelque chose, je veux dire, aux paroissiens qui n'ont pas encore, j'insiste sur le encore, on n'a pas encore pu se rendre à Coubalan. Et donc, nous organisons une soirée paroissiale avec des petites saveurs sénégalaises. Hein, je veux dire, il y a des membres de l'équipe qui se sont donner la peine, la tâche, en tout cas, ou la joie aussi,
essayer de recréer,
une ambiance un petit peu
gustative et formidable.
Donc, autour formidable, d'un repas sénégalais, nous avons pu réunir une soixantaine, je pense.
Oui, oui, et on a refusé du monde de
personnes. Et il n'y avait pas encore le coronavirus.
Non, oui, évidemment. Donc, et donc, nous avons pu, au cours de cette soirée, donc avec une soixantaine de paroissiens, donc dommage pour ceux qui n'ont pas pu, mais il fallait réserver.
Oui, oui, tout à fait. Je me souviens de cette réservation et c'est très bien. Enfin, je suis ravie qu'il y ait eu tant de monde. Et donc le rendu de cette soirée.
Au cours de cette soirée, nous avons pu échanger des photos, des films, puis aussi des paroles. Donc les gens ont pu, toute l'équipe qui a voyagé donc était présente. Donc c'était un temps d'échange, un temps de partage, un temps de question, un temps de témoignage, effectivement. Et donc voilà, ça a été notre manière à nous, je veux dire, de donner envie, de partager, je veux dire, ce que nous avons pu vivre, et surtout témoigner du désir de la paroisse de Coubalan de véritablement donner vie.
Voilà. De nous connaître, ils sont curieux de nous connaître. Ça a été aussi pour eux ce qui est ressorti de toutes les rencontres que nous avons pu faire. Nous avons rencontré donc quand même six clochers, je dirais, et c'était unanimement leur première curiosité était celle-là. Donc, voilà, comment nous vivons-nous notre foi et essayer d'échanger sur cette base.
D'accord. Donc, il y a eu le voyage à Coubalan, ce voyage de rêve. Donc, je rappelle vos mots, Suzanne. Il y a eu cet échange et ce partage avec la paroisse de Cahors. Et 2020, le coronavirus. Vous parliez tout à l'heure, ou il y a quelques minutes, de cette statue que vous avez ramenée. Et dites-nous comment a été appréhendée cette mise en place de cette statue entre 2019 et 2020 avec les conditions malheureusement que nous connaissons de 2020.
Alors ce que je peux dire c'est que voilà, donc on revient au mois de juillet, au mois de septembre si mes souvenirs sont exacts, Maréga, donc on vit cette soirée
au mois d'octobre
et donc on 2019, projette d'installer le 19 mars. C'est donc, effectivement, 2020. C'est la fête donc de Saint-Joseph.
Oui, oui. 2020, oui.
On projette d'installer cette statue donc au 19 mars 2020, donc à la cathédrale de Cahors, où on projette de l'installer. Alors la cathédrale de Cahors est le lieu final qui a été choisi donc à la chapelle Saint-Joseph donc pour l'installation de cette statue, mais il faut savoir que bien avant.
Voilà, il y a eu quand même quelques démarches.
Il y a eu quelques réflexions, je dirais même un discernement, je veux dire, pour savoir quel était le lieu idéal pour accueillir, qui pouvait accueillir ces statues de manière à ce qu'elles puissent être visibles, qu'elles puissent être contemplées, qu'elles puissent être, c'est ça le but, je veux dire, qu'elles soient vraiment le signe de ce désir d'échange. Donc, le Père évêque, donc, Monseigneur Camiade a été consulté, donc, en premier lieu. Ensuite, donc, les bâtiments de France et la commission d'art sacré, donc, Marie-Madeleine Ray, donc, a effectivement réfléchi aussi, donc, pour savoir est-ce que c'était l'église Saint-Barthélemy ou est-ce que c'était plutôt la cathédrale, Donc, ces questions-là, ou de lieux géographiques aussi, donc, se sont posées. Il y a eu également la question technique, c'est-à-dire que cette statue, donc, on la pose comment? On la pose, il faut qu'elle demeurera donc à la cathédrale de manière définitive, donc il faut pouvoir l'installer pour qu'elle soit aussi donc solidement fixée donc sur un endroit voilà qui puisse l'accueillir de manière noble, j'allais dire. Donc il y a toutes ces démarches donc préalables pour pouvoir décider du lieu, et donc comme je le disais tout à l'heure, ça a été décidé, le lieu qui a été décidé pour accueillir cette statue, c'est la chapelle Saint-Joseph
donc de la cathédrale Saint-Étienne qui se trouve à droite du cœur, juste avant le cœur, quand nous sommes en face du cœur.
C'est ça,
très bien.
Tout à fait.
Oui.
Merci Suzanne, c'est très intéressant. Nous reprendrons le fil de cette conversation dans deux semaines pour notre troisième émission consacrée au jumelage de la paroisse de Cahors avec Coubalan. et inversement, bien sûr. Donc, nous disons au revoir à nos auditeurs. Et donc, nous retrouvons la semaine prochaine Jacques Allary pour la semaine de l'unité des chrétiens. Et nous continuerons ensuite avec vous, Suzanne et Marika, sur ce jumelage. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Et donc, à très bientôt pour continuer sur le jumelage de Paroisse de Cahors et de Coubalan. Au revoir.